pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1,
14h-15h,
La Voix est livre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Vous le connaissez tous, Charlie et la chocolaterie, le bon gros géant, sacrée sorcière, c'est lui, Roald Dahl, bien sûr, la belle collection Quarto chez Gallimard, vous savez, qui rassemble des textes d'un auteur dans un gros livre pour avoir tout sous la main, publie Les Contes de l'Inattendu, un Roald Dahl que l'on connaît moins, sous la direction de Julien Bisson, qui sera notre invité. Ensuite, visite de bibliothèque, évidemment, nous partirons chez Patrick de Carolis aujourd'hui, direction Vaucresson après ça chez nos libraires, et puis Sébastien Bordenave fermera la boutique avec sa chronique bande dessinée. Mais d'abord donc, c'est l'invité, La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. Vous avez peut-être reconnu Charlie et la chocolaterie, l'adaptation en film de l'œuvre de Roald Dahl. Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes, je rappelle, rédacteur en chef du 1, ce beau journal qui se déplie tout entier, et du 1 des libraires aussi, le hors-série littéraire, ancien patron de Lire, le magazine. Vous avez donc dirigé cette formidable édition chez Quarto, 1600 pages de Roald Dahl, Les Contes de l'Inattendu. Pourquoi maintenant ? Pourquoi vous êtes lancé là-dedans ?
Et bien parce que, comme vous l'avez très bien rappelé en ouverture, Roald Dahl, c'est véritablement l'un des auteurs jeunesse les plus connus au monde. C'est 200 millions d'ouvrages vendus, ce sont des personnages dont on se souvient, que les enfants et ceux qui ont grandi aujourd'hui se souviennent très bien. On a vu un personnage qui était adapté beaucoup de fois, Charlie la chocolaterie, Tim Burton et beaucoup d'autres encore. Mais avant d'être un grand auteur pour la jeunesse, un très grand auteur pour la jeunesse, Roald Dahl a été un auteur pour le monde des adultes. Il était un très grand nouvelliste et aujourd'hui, notamment en France, ce volet-là de son œuvre a été écrasé par sa notoriété pour la jeunesse et avec les éditions Quarto, on a jugé qu'il était grand temps de rendre justice à cette partie-là de son œuvre et à permettre à un public plus large de redécouvrir toutes les pépites qui ont précédé son œuvre pour la jeunesse.
Alors il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles, deux récits et un roman, mais donc pour les grands. Pourquoi, vous n'avez peut-être pas la réponse, mais pourquoi on connaît moins ce Roald Dahl-là ?
Eh bien, tout d'abord parce que le succès fait figure parfois d'écran. Je veux dire par là que le succès grandissant qu'ont pu avoir ses œuvres pour la jeunesse, qu'il a commencé à publier à partir des années 60, il y avait véritablement eu une Roald Dahl mania, notamment à partir des années 80, et encore plus aujourd'hui avec les adaptations de ses œuvres, et ça ne veut faire que continuer, puisque Netflix a acheté l'ensemble des droits de Roald Dahl et on peut s'attendre à ce que sur Netflix on voit apparaître de nombreuses séries, de nombreuses adaptations de ses œuvres et notamment de ses œuvres pour enfants parce que ce sont celles qui sont aujourd'hui qui ont le plus de succès, qui sont les plus commerciales. Et donc ça a fini par écraser un petit peu ce qu'il avait pu faire auparavant alors même que ses œuvres pour adultes avaient eu un véritable succès dans les années 50-60. Des recueils comme Kiss Kiss, Bizarre Bizarre peuvent parler un petit peu aux amateurs de nouvelles, aux amateurs d'humour noir. Et puis il y a eu aussi des adaptations d'Alfred Hitchcock par exemple qui s'étaient intéressés à ces nouvelles. Donc il y avait véritablement un succès qui était là. Et puis voilà, cet énorme succès de l'œuvre pour la jeunesse a fini par reléguer en seconde division un petit peu ce qu'il avait fait auparavant.
Alors vous signez aussi une préface et une biographie en images au début du livre. Moi j'admets que je connaissais rien du tout à la vie de Roald Dahl et je dois dire que j'ai rarement lu une bio comme ça, courte, d'introduction aussi dense et précise. On a l'impression de connaître absolument toute la vie de Roald Dahl après l'avoir lu, parce qu'il y a une partie générale, puis ensuite c'est par année quasiment, avec des photos. Et donc vraiment, on visite tout. On va y revenir justement sur sa vie, avec le début. D'où vient-il ? Moi, j'étais persuadé qu'il était britannique. Il l'est, mais il est né en 1916 au Pays de Galles, mais ses parents sont norvégiens. Et ça jouera un rôle dans sa manière de raconter des histoires.
Oui, ça jouera un rôle très important parce qu'on parle norvégien pendant les premières années de sa vie à la maison. Et sa mère, notamment, est une grande raconteuse d'histoire. Elle est irriguée de toutes les sagas nordiques. Il va d'ailleurs, Roald Dahl, passer tous ses étés quand il est jeune en Norvège. Et véritablement, ça va avoir une grande importance dans sa vie, cette idée qu'il y a peut-être du féerique, il y a peut-être du magique, il y a peut-être quelque chose d'un peu fantastique qui peut nous entourer. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard. Et pour ceux qui connaissent un peu son œuvre, qui est la grand-mère de Sacrée Sorcière, par exemple, est totalement inspirée de la figure de sa mère. Il écrit ce livre juste après la mort de sa mère. Il est inspiré par cette idée que, par les histoires, on peut voyager. Les histoires nous permettent d'inventer d'autres vies. Ça va beaucoup le marquer dans l'enfance, alors même qu'il ne se destine pas forcément à être écrivain. Mais ça, il reviendra là-dessus quand il va justement se lancer dans l'écriture.
Et oui, il a une jeunesse dramatique aussi. Ça compte pour un écrivain, on le sent ensuite dans son œuvre, comme vous venez de l'exprimer.
Oui, il aura une vie qui sera marquée par les deuils, on en parlera peut-être un peu ensuite, mais déjà dès la jeunesse, il perd son père à l'âge de 3 ans, son père qui lui-même était mort quasiment de chagrin, oui, parce que la sœur aînée de Roald Dahl, qui avait 7 ans, meurt en quelques semaines. Et donc il va grandir comme étant le seul petit homme de sa maison, aux côtés de ses sœurs et de sa mère, et il va avoir ce sens du dramatique. C'est quelque chose qui va toujours l'habiter, qui va malheureusement le poursuivre plus tard dans sa vie, mais c'est véritablement quelque chose qui va l'habiter et qui va du coup va aussi nourrir une partie de ses personnages qui eux-mêmes auront l'idée que le drame est toujours proche. Et quand on pense aux personnages d'enfants qui vont ensuite peupler ces récits, ce sont souvent des récits des enfants qui seront marqués par des deuils précoces et qui vont devoir surmonter.
Mais quand il rentre dans l'âge adulte, il n'a pas du tout l'intention d'écrire. Ça ne fait pas du tout partie de ces écrivains qui écrivent depuis toujours dans des petits cahiers comme ça, qui racontent des histoires à tout le monde. Pas du tout. Il est très très loin de ça pour l'instant.
Non, c'est un grand lecteur. Il aime plutôt la photographie. Et en réalité, se destine plutôt à être un homme d'affaires. Dans la fin des années 30, il est engagé par la compagnie Shell, la compagnie pétrolière Shell, et il part en Afrique de l'Est pour s'occuper d'intérêts commerciaux. Et véritablement, c'est l'histoire, la grande histoire avec un H, qui va réveiller quelque chose en lui, qui va véritablement rentrer dans sa vie, puisque la guerre va être déclarée, et qu'à ce moment-là, Roald Dahl décide de participer à cette guerre en 1939. Il s'engage dans la RAF, la Royal Air Force, pour devenir pilote de chasse. Et lors de son tout premier, il fait une formation, il est plutôt bon pilote, a priori, pendant sa formation, et lors de son tout premier voyage pour rejoindre son escadrille, il va avoir un accident très grave, d'ailleurs qui fait penser parfois à l'accident qui est raconté dans Le Petit Prince.
Saint-Exupéry,
parce qu'il va s'écraser dans le désert, il va vraiment rater, il va manquer de mourir de très peu, et il va rester profondément marqué physiquement par les séquelles de ce crash. Et c'est à ce moment-là aussi où il va peu à peu découvrir l'écriture après cet accident.
Et ensuite, on voit ça dans un instant. On reprend les traces de Roald Dahl. A tout de suite.
Europe 1, 14h, 15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson, adapté aussi de l'œuvre de Roald Dahl. La Voix est libre, toujours avec Julien Bisson, qui présente une édition chez Quarto de nouvelles et d'un roman de Roald Dahl. Vous êtes toujours avec nous. Vous nous expliquiez qu'au départ, il n'était pas du tout parti pour être écrivain. Il est engagé dans l'armée pendant la guerre. Il est pilote de chasse et il a un accident. Il s'écrase. Et c'est à partir de là qu'il va... Comment ça marche? Comment il se met à écrire?
Mais il va participer à quelques combats aériens pendant la guerre. Il va descendre plusieurs avions ennemis. C'est ce qu'il raconte dans son récit de l'escadrille 80. Mais il est très vite démobilisé parce que les conséquences de son crash font qu'il ne peut plus voler. Et il veut participer à la guerre d'une façon ou d'une autre. Et il est envoyé en Amérique pour servir la propagande britannique, pour essayer d'encourager la population américaine à se lancer dans la guerre, pour essayer d'encourager la popularité de cette guerre. Et donc, il part aux États-Unis à ce moment-là et il fait la rencontre d'un écrivain qui s'appelle C.S. Forrester.
Cecil Scott Forrester,
un grand écrivain britannique lui aussi et qui participait fortement également à la propagande britannique contre les nazis. Et C.S. Forrester va l'encourager à écrire en lui disant « Mais tu sais, écrire un texte, ça peut aussi servir à exciter les esprits. Et donc, il va écrire Roald Dahl son tout premier texte, qui est une version un tout petit peu romancée de son crash aérien en Libye. Le texte va paraître dans la presse américaine et ça va lancer, ça va être le tout premier démarrage, ça va lancer son envie d'écrire. Et quelques mois plus tard, il écrit un texte qui s'appelle Les Gremlins. Les Gremlins, qui est toujours inédit en français. Alors on pense comme ça, Les Gremlins, aux petites bestioles des films des années 80 qu'on connaît bien. C'est pas du tout ça dans l'œuvre de Roald Dahl, puisque ce sont là aussi des petites créatures, mais des petites créatures qui ont le mauvais goût de déranger les avions britanniques.
Et qui veulent dominer le monde en laissant les humains s'autodétruire, et en les incitant à le faire d'ailleurs.
Oui, et ça c'est le sujet de son premier roman, son tout premier roman, qui lui aussi est inédit en France, et qui imagine une quatrième guerre mondiale. Il avait un volet très pessimiste. Il le publie en 1946, donc juste après la guerre. Il imagine déjà que ce n'est pas parce que la Deuxième Guerre est terminée et qu'on a vaincu les nazis que les hommes vont faire la paix ad vitam aeternam. Et il est assez visionnaire de ce point de vue-là.
Comment il est reçu en littérature par le public et la critique ?
Ses premiers romans, ce tout premier roman, puis le deuxième roman qu'il va essayer d'écrire, sont plutôt des échecs. Sont tellement des échecs qu'il va, croire à un moment qu'il n'est pas fait pour ça finalement et qu'il faut qu'il arrête de d'écrire. Mais en réalité, après-guerre, donc il est à New York et les grands magazines new-yorkais, New Yorker, Collier's, Harper's, publient beaucoup de nouvelles. Et il va s'essayer à l'écriture de nouvelles, parce que notamment à l'écriture de nouvelles d'anciens pilotes, il y a encore une appétence à ce moment-là pour les nouvelles de guerre, pour avoir ceux qui ont participé à la guerre qui racontent un petit peu ce qu'ils ont pu en faire. Et puis très vite, l'appétence pour les récits aériens va disparaître, mais lui va se rendre compte qu'il a beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de petits contes, et c'est pour ça qu'on parle de contes de l'inattendu dans ce quarto, de petits contes cruels, truffés d'humour noir, qui sont proches de récits à la Edgar Allan Poe un petit peu, et il va petit à petit arriver à se faire un trou dans l'édition de New Yorkaise.
Ça marche bien, il arrive à en vivre d'ailleurs.
Et il arrive à en vivre, et c'est vraiment véritablement quelque chose qui va, pendant plusieurs années, il va essentiellement publier ses nouvelles qui vont avoir un succès grandissant.
Mais alors comment il commence à écrire pour les enfants ?
Alors ça, c'est quelque chose qui se passe au tout début des années 60. Il est un petit peu frustré quand même par le fait de ne pas avoir la réussite littéraire qu'il aurait espéré. Et son agente lui dit « Mais tu sais, peut-être qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire, des récits pour la jeunesse. » Les Gremlins avaient un petit volet comme ça déjà pour la jeunesse. Et il se dit « Pourquoi pas ?» Sachant qu'il est devenu père récemment, donc il a une forme de familiarité aussi avec le monde des enfants. Et donc, il se lance dans sa toute première histoire, qui sera James et la grosse pêche, et qui va avoir un premier succès, un petit succès. Ce n'est pas encore la Dahl Mania qu'on connaîtra des années plus tard, mais qui va avoir un petit succès et qui annonce ensuite, en tout cas, le succès plus important qu'il aura avec Charlie et la chocolaterie, qui lui paraîtra en 1968.
Justement, ces 200 millions d'exemplaires écoulés, Roald Dahl, dans le monde, vous l'avez dit tout à l'heure. Bon, les chiffres, en général, ça ne dit rien d'une œuvre, et puis on s'en fout un peu. Mais quand ça arrive à 200 millions, il y a quand même un mystère. Comment on explique une telle popularité ?
Parce que Roald Dahl avait véritablement la capacité d'arriver à se mettre à la hauteur des enfants et à leur faire confiance dans la compréhension qu'ils pouvaient avoir des histoires. Je veux dire par là que Roald Dahl a surpris, choqué, mais aussi fasciné parce qu'il était capable de mettre en scène des enfants en but total contre le monde des adultes. Des enfants qui devaient se battre, qui devait résister, qui devait lutter contre un monde qui était périlleux, contre un monde qui était difficile, qui était dangereux, et avec l'idée que les ressources étaient en eux et qu'ils pouvaient toujours triompher de l'adversité. Et de ce point de vue-là, c'était quelque chose de totalement novateur et quelque chose qui se conjuguait également avec une fantaisie dans les histoires, dans l'univers où elle pouvait évoluer, qui était là aussi assez incroyable. Quand on pense, on a parlé de Fantastique Maître Renard, c'était quelque chose qui était là aussi novateur. C'était presque une apologie du vol à l'époque qui pouvait faire craindre les éditeurs. Mais des aventures comme Les Deux Gredins, les aventures comme Mathilda, il y avait réellement une description très acerbe, parfois très violente, qui pouvait effrayer parfois les parents, mais que les enfants adoraient. Parce que Roald Dahl savait que les enfants pouvaient comprendre, étaient capables de comprendre que tout cela était excessif, mais qu'en réalité, ça parlait de leurs propres angoisses, de leurs véritables angoisses.
Alors, il y a une ombre qui passe au-dessus de Roald Dahl. On en a parlé l'année dernière parce que sa famille s'est excusée pour des propos qu'il a tenus en 83, je crois, dans un journal, dans une interview, des propos antisémites qui flirtaient plutôt avec l'antisionisme. Mais bon, on voyait bien que ça dissimulait peut-être un antisémitisme caché. Ça a fait scandale, évidemment. On ne peut pas lui pardonner ça. Peut-être d'autant plus parce que, justement, il écrit pour les enfants. Il y a comme ça une sorte de... Il est un peu garant d'une forme d'innocence et d'éducation aussi, d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. Et ces propos sont en effet tout à fait impardonnables. Il faut, si on essaie de reprendre le contexte, c'est des propos qui tiennent à la toute fin de sa vie. Et surtout, c'est les propos de quelqu'un qui a toujours été provocateur et un provocateur qui ne savait pas forcément quelles étaient les limites à ne pas franchir.
Parce qu'il tient d'abord des propos, bon... Ça, c'est déjà très très limite. Puis ensuite, il essaie de se justifier. Alors là, il s'enfonce mais complètement.
Oui, complètement. Complètement. En expliquant que les Juifs ont sans doute mérité ce qui a pu leur arriver. Et là où c'est surprenant, c'est que rien de cela ne transparaît ni dans son œuvre. Oui. Il n'y a aucun personnage, aucune référence antisémite, ni dans son œuvre pour les adultes ou pour la jeunesse, ni dans ses relations avec les autres. Il a travaillé avec des éditeurs juifs, il a eu des amis juifs, rien dans sa correspondance ne laisse transparaître également cela. Et donc, c'est difficile à comprendre quand on voit tout ce qui s'est passé dans le reste de sa vie, mais ce n'est pas pour ça que ça en est excusable.
Il meurt 5-6 ans plus tard. Alors, ce n'est pas qu'un auteur jeunesse, on l'a bien dit, et dans un instant, on va justement ouvrir quand même ce quarto et ses contes de l'inattendu. On va peut-être même raconter une nouvelle, on va voir. À tout de suite.
La voix est libre.
Nicolas Caro.
La Voix est libre, le retour de la vengeance, toujours avec Julien Bisson, qui présente une magnifique édition d'œuvres de Roald Dahl. C'est pour ça qu'on entend Le Bon Gros Géant, l'adaptation par Spielberg. Le quarto s'appelle Les Contes de l'Inattendu. Il y a aussi un roman dedans, Mon Oncle Oswald, deux récits et beaucoup, beaucoup de nouvelles, dont certaines inédites, je crois. Des histoires très différentes, plus ou moins sucrées, plus ou moins acides, une sorte de paquet de bonbons, en fait. Des nouvelles qu'on connaissait peu, Julien Bisson, on peut les rassembler en plusieurs catégories, des plus mélancoliques aux plus rocambolesques et drôles.
Oui, alors l'idée du paquet de bonbons est plutôt bien choisie parce qu'il y en a même quelques-unes qui sont très hautes, comme on pourrait dire.
Licencieuses
et qu'on ne mettrait pas tout à fait dans les mains des enfants. Ce sont des nouvelles qui vont un peu épouser le cours de sa vie entre les nouvelles qu'il publie juste après la guerre, qui sont des nouvelles qui sont marquées par son expérience de pilote. Puis ensuite, dans les années 50-60, celles qu'il publie dans les grands magazines new-yorkais, qui sont véritablement des petits bijoux ciselés d'humour noir avec un art de la chute incroyable. On est toujours dans ces nouvelles-là en train d'attendre la dernière page parce qu'on sait que la dernière page révélera la clé de toute la nouvelle. Et puis, vers la fin de sa vie, au moment même où il commence à avoir du succès pour les enfants, eh bien, c'est comme si, dans un grand écart littéraire, il se lançait dans des nouvelles qui étaient, voilà, comme on dit, plus licencieuses, qui paraissent dans Playboy, qui paraissent dans Esquire, et où il s'amuse avec les affaires de la chair.
Alors, elles sont vraiment géniales, mais c'est vrai que c'est une facture assez classique, finalement. C'est pas du Raymond Carver, très poétique, comme ça, sans qu'il y ait vraiment de début, ni vraiment de fin, où on passe dans la vie des gens et on regarde le monde tel qu'il va. Lui, c'est vraiment la nouvelle avec une bonne accroche, un développement et la chute à la fin qui renverse tout. Il est dans cette tradition-là.
Oui, exactement. Il avait un petit carnet avec des idées d'histoire et donc il plantait en quelques phrases un décor, des personnages, une intrigue et puis cette chose qui peut-être est un point commun à quasiment tous ces personnages, l'idée que le destin peut basculer. Il suffit d'un coup de dé, il suffit d'un pari, il suffit d'un accident,
d'une idée, et
le destin peut basculer à chaque moment. Et c'est ça aussi qui fait la force de tous ces personnages.
Tonton Julien, vous nous en racontez une, s'il vous plaît ?
Oui, alors il y en a énormément. Peut-être La Logeuse, par exemple. La Logeuse, c'est l'histoire d'un étudiant qui arrive dans une pension. Et c'est une vieille dame qui lui ouvre et qui lui dit « Mais voilà, vous venez, vous pouvez être locataire de cette pension. » Il ouvre le carnet, il regarde, il y a très peu de noms, il y a deux noms qui lui disent vaguement quelque chose. Il dit, mais c'est peut-être des anciens étudiants avec moi, mais bon, je ne sais pas. Et il s'assoit dans son grand salon, il y a des animaux empaillés un peu partout. Elle lui sert, elle est très gentille, elle lui parle doucement, elle lui sert un thé qui a l'air délicieux. Et puis pendant qu'il boit son thé et qu'il discute, il y a quand même ces noms qui lui viennent à l'esprit et il essaie de se rappeler mais pourquoi il a déjà entendu ces noms. Et puis pendant ce temps-là, la dame lui dit mais j'ai bien connu les deux personnes qui sont venues et ils ont beaucoup apprécié leur séjour ici et ils ont voulu prolonger leur séjour. Et à ce moment-là, il commence à regarder tous ces animaux empaillés et il se rappelle que les deux noms sont des noms de personnes qui ont disparu et qu'on n'a jamais retrouvées et qu'il trouve que le thé un petit goût amer.
Vous avez bien fait de raconter cela parce qu'elle est assez représentative. Alors, il y en a, je sais pas, il y en a une trentaine au moins.
Oui, même plus que ça, une cinquantaine, je pense.
Et on disait, c'est très différent. Et il y en a deux, notamment Katina et Mort d'un homme très, très vieux, qui sont des récits de guerre, en fait.
Oui, des récits de guerre.
Et on rigole pas du tout.
Non, on rigole pas du tout à ce moment-là. C'est vraiment des récits qui sont imprégnés par l'expérience du drame que fut pour lui la guerre. Il dit à un moment, dans Escadrille 80, dans ses récits de souvenirs de jeunesse, il dit que dans son escadrille, dans ceux qui ont fait la formation pour devenir pilote de chasse comme lui, ils étaient une 16, je crois, et que seuls deux d'entre eux ont survécu à la guerre. Et il a véritablement vu mourir autour de lui tous ses camarades, un peu comme Tolkien avait été marqué par l'expérience de la Première Guerre mondiale. Et bien lui, il est marqué par celle de la Seconde Guerre mondiale. Et dans ses récits aériens, et bien il veut essayer de montrer ce côté totalement dramatique avec une forme d'empathie très forte qu'il a pu ressentir pendant la guerre. Et c'est vrai que c'est Katina ou Mémoire d'un très vieil homme sont deux très bons exemples de cette veine-là chez lui.
Il y en a une qui est superbe aussi, qui s'appelle « À moi, la vengeance, S.A.R.L. ». C'est l'histoire de deux copains fauchés qui lisent tous les matins le journal et la chronique mondaine. Et la chronique mondaine qui se moque des people de l'époque, en fait. Et ils se disent que, dites donc, ils doivent être bien fâchés, ces gens-là, de se faire comme ça humilier sur la place publique. Et ils décident de monter une entreprise avec des tarifs pour infliger un châtiment aux chroniqueurs mondains, payé par évidemment les people de l'époque. Je ne raconte pas la fin. Il y a Mon oncle Oswald aussi, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles, mais il y a un roman, c'est Mon oncle Oswald.
Oui, Mon oncle Oswald, qui est un personnage qui apparaissait déjà dans des premières nouvelles et dont Roald Dahl s'est dit qu'il pouvait faire un roman entier. Mon oncle Oswald, c'est un personnage totalement lubrique qui fait le décompte de toutes ses conquêtes et qui a cette formidable idée qui est d'aller vendre à des femmes désireuses d'avoir de formidables enfants des gouttes de sperme de tous les plus grands génies de la planète. Et donc, il va partir avec une compagne très accorte, avec dans l'idée d'aller voir tous les grands génies pour aller recueillir des gouttes de leur sperme pour pouvoir ensuite le vendre à toutes ses clientes. C'est un roman très drôle, vraiment hilarant, dans cette veine qui était la sienne à ce moment-là, c'est-à-dire vraiment une veine au vitriol, très acide. Et c'est vrai que ce n'est pas à mettre entre toutes les mains, mais c'est vraiment, vraiment très drôle.
Eh oui, vous l'avez déjà dit un peu, mais il a écrit pour Playboy. J'ai appris ça en lisant votre livre. Il a écrit pour Playboy, Roald Dahl quand même.
Oui, Roald Dahl qui écrivait pour Playboy au même moment où il faisait paraître Fantastique Maître Renard et quelques autres grands romans jeunesse. Ça montre bien la variété de son imaginaire, un imaginaire mais qui en même temps est toujours un peu provocant, qui aime quand ça gratte, quand ça fait mal, qui aime quand les choses ne sont pas aussi propres, aussi nettes que ce qu'elles ont l'air d'être. Donc c'est vrai que ça peut paraître surprenant même comme cela, et en même temps, et c'est ce qu'on montre aussi dans ces contes de l'inattendu, c'est deux facettes d'une même pièce. Si on ne lit que les livres pour la jeunesse, bah on a une partie de son talent, on a une partie de son œuvre, mais on rate un autre versant qui n'en est pas moins intéressant.
Ce serait dommage parce que c'est magnifique. Conte de l'inattendu de Roald Dahl, c'est chez Quarto. Restez avec nous, Julien Bisson. Nous partons visiter la bibliothèque de Patrick de Carolis dans un instant.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La voix est libre, il est l'heure de visiter une bibliothèque. Patrick de Carolis vient de publier un nouveau roman aux éditions de l'Observatoire, un roman historique, co-signé avec sa femme Caroline de Carolis, Bianca, l'âme damnée des Médicis. C'était l'occasion de voir de quel livre il se chauffe. Allons-y. Bonjour Patrick de Carolis.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous à Paris. Mais vous faites partie de ces gens chez qui je vais, qui ont à la fois un petit appartement à Paris, mais qui vivent ailleurs. Et vous, en l'occurrence, à Arles. Et c'est oui. Un peu une malédiction pour moi, parce que la plupart de vos livres sont à Arles, même s'il y en a beaucoup ici. Comment vous avez fait le tri entre ceux que vous laissez à Paris et ceux que vous avez à Arles ?
Je vis à Arles quotidiennement, donc j'ai besoin de mon univers, j'ai besoin de ma nourriture quotidienne. Donc les livres qui sont importants pour moi sont à Arles. Et ceux qui sont importants, ce sont ceux qui m'ont construit, qui m'ont habité, qui m'ont suivi pendant mon itinéraire professionnel. Par exemple, j'ai énormément de livres d'art parce que pendant 7 ans, j'ai dirigé le musée Marmottan. Et puis, j'ai tous mes livres concernant la poésie, parce que pour moi, c'est essentiel. Il n'y a pas un soir où je ne m'endors pas en lisant une page poétique.
Ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'on a des échantillons des deux domaines. On a des livres d'art ici, chez vous, à Paris, et des livres de poésie un peu plus loin dans votre chambre. Là, on est quoi ? Dans un bureau, en fait ?
Là, c'est un bureau de passage. Voilà, c'est y a quelques reliquats de livres que je n'ai pas pu emporter. Y a certains livres qui correspondent à quelques peintures ou à quelques œuvres d'art que nous avons. Et puis, j'ai des livres en double concernant la vie de Monet, voilà, qui m'a accompagné pendant 7 ans.
Alors voilà, effectivement, vous avez beaucoup de livres d'art grand format, qu'on appelle parfois des coffee table books, parce qu'ils sont plutôt à plat sur les tables basses. D'ailleurs, oui, il y en a aussi dans le salon.
Exactement.
Mais vous êtes un spécialiste, donc forcément, il y en a beaucoup, beaucoup. Ça pèse très lourd, effectivement.
Par exemple, là, vous avez... là, vous mettez le doigt sur Combas.
Combas, vous nous dites un peu qui est Combas ?
Ah bah, Combas, c'est... Wow. Oui, il est lourd. Combas, c'est un...
Robert.
C'est un artiste qui a été sur la scène et qui est né à Lyon, mais qui, en fait, est estampillé plutôt sétois, c'est-à-dire qu'il vit à Sète, et que j'ai rencontré il y a quelques années, et qui a tout un univers à lui. Et,
vous pouvez décrire son univers et ses tableaux, parce que moi, je suis nul pour ça. J'arrive pas à les faire voir à la radio.
C'est extrêmement difficile de le décrire, parce que vous avez, c'est une profusion de couleurs, de dessins.
Des couleurs sombres, un peu. Quoi.
Ah, je suis pas d'accord avec vous, non. Regardez,
oui, mais tout est surligné de noir.
Ah oui, mais...
Il y a du rouge, du vert, du jaune, mais tout est...
C'est très graphique, c'est...
Avec des personnages un peu grotesques, de cauchemar, un peu.
Exactement.
De rêve, d'ailleurs.
Ouais, je pense que c'est son univers, on le voit d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un qui est à la fois un grand musicien, un poète et un peintre. Donc il mélange tout ça en permanence, et c'est son univers, c'est son obsession aussi. Je pense qu'il suit quelque chose qui l'obsède. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et vous avez aussi à côté de lui, vous avez Velikovic, qui est un peintre merveilleux, puissant, qui est décédé il y a un an à peu près.
J'ai pris un livre et j'ai fait tomber une très belle statuette de petit oiseau. J'ai eu très peur.
Ne vous inquiétez pas, ça va.
Mais ce livre m'a interpellé, c'est le questionnaire de Proust.
Alors, qu'est-ce que fait le
questionnaire de Proust,
Ça, c'est un livre qu'on m'a offert.
C'est plein de réponses au questionnaire de Proust,
non,
en fait.
Oui, exactement. Alors, vous voyez, par exemple, tiens, on ouvre le questionnaire de Proust. Questionnaire numéro 2, Blaise Cendrars.
Voilà, c'est lui qui a répondu à toutes les questions du questionnaire. Donc, le principal trait de son caractère, c'est la paresse. La qualité qu'il désire chez un homme, c'est la simplicité et l'insouciance. Mais attendez, je vais vous le faire, le questionnaire de Proust. Je vais la faire à la Bernard Pivot.
Oui, mais alors moi, je suis très mauvais pour ça.
Alors, le principal trait de votre caractère ?
Obstiné.
La qualité que vous désirez chez un homme ?
La loyauté.
celle que vous préférez chez une femme ?
Assez compliqué.
Ça peut être la même.
La loyauté, la fidélité, la... Il y a quelque chose que j'aime chez ma femme, c'est que c'est un pivot formidable. C'est une épaule sur laquelle on peut s'appuyer. J'aime les femmes qui nous permettent de...
Solide.
Solides, oui. Mmh. La solidité.
Vos héros dans la fiction. Lui, il a répondu Perceval, Robinson et Don Quichotte, Blaise Cendrars.
Oui, Don Quichotte, j'aime assez. J'aime assez Don Quichotte, celui qui se combat les moulins.
Vos héros dans la vie réelle.
Dans la vie réelle ou dans la vie qui a existé, Thomas More.
Ce que vous détestez par-dessus tout. J'en fais encore deux, après on arrête. Mais...
Ce que je déteste par-dessus tout, sorte d'hypocrisie que l'on peut trouver chez certains, oui.
Comment vous aimeriez mourir ?
Comment j'aimerais mourir ? Sans m'en apercevoir.
Et alors la dernière, votre devise.
Si j'avais une devise, ce serait faire et parfaire.
Pas mal, c'est de vous ou...
C'est de moi.
D'accord. C'est pas mal sur un blason. Vous avez un blason, vous, d'ailleurs,
non,
de Carolis ? C'est une grande famille.
Pas de blason, non.
Des armoiries et tout.
Non plus.
Si vous voulez bien, c'est ça aussi ce qui est chouette dans cette séquence, c'est que... Je vais dans les chambres de personnalités, comme ça, c'est toujours très intime. Déjà, une bibliothèque, c'est intime, mais une bibliothèque dans une chambre. Mais on doit y aller parce qu'il y a toute la poésie là-bas. Qu'est-ce que vous avez... Je ne savais pas que vous étiez un fou de poésie comme ça.
J'ai écrit une nouvelle poétique, Refuge pour temps d'orage, que vous avez là, qui a été lue par Pierre Arditi et qui a été jouée au théâtre par Bérangère Dautin et Jean-Pierre Michael. Ça a été une grande joie pour moi. J'aime écrire la poésie, je l'écris le soir et je travaille sur un autre recueil, sur une nouvelle poétique qui sortira dans quelques années parce que je prends du temps.
Là, j'ai pas dit, mais donc on est dans la chambre et de part et d'autre du lit, il y a des niches dans les murs avec des livres dedans. Et vous avez même accroché vos oreillers au mur, dites-donc.
Oui, c'est une œuvre d'art d'une artiste qui s'appelle Aurel. C'était là où il fallait le mettre.
Et alors, Blaise Cendrars, on en a parlé avec le questionnaire de Proust, mais il est très présent aussi dans cette bibliothèque-là. Pourquoi vous aimez Blaise Cendrars ? Est-ce que vous pouvez nous...
J'aime le personnage, j'aime ce qu'il a été, cet aventurier, j'aime son engagement dans la vie... j'aime ses œuvres, j'aime son livre L'Or de Blaise Cendrars.
Que vous avez là.
Qui nous amène de la Suisse à la Californie, aux États-Unis, avec les aventures du général Sutter. Voilà un homme qui va essayer de recréer sa Suisse natale en Californie et de faire un monde le plus merveilleux possible. Il réussit à faire venir des agriculteurs, des personnes qui vont vivre de la terre et qui vont faire cette petite Suisse nouvelle. Et puis, à un moment donné, il y a un événement qui va tout bouleverser. C'est que quelqu'un va trouver de l'or sur ses propres terres. Et là, tout le monde déserte la campagne, tout le monde déserte le travail manuel pour aller chercher de l'or. Et ça fait sa ruine, ça fait sa faillite.
Je vois aussi que vous avez les poèmes de Lord Byron, vous avez Baudelaire, l'exergue dans votre nouveau livre, c'est l'entrée aux enfers de Dante, laisser ici toute espérance. Vous avez une part sombre comme ça, vous aimez explorer le spleen de Baudelaire et le romantisme noir de Lord Byron.
Je pense que je vais chercher dans la poésie ce qui a le plus... Le plus intense et le plus intime. La poésie, pour moi, elle est importante parce que c'est une terre de liberté. C'est une terre où il n'y a plus de frontières, de barrières, où on peut tout se dire, tout s'avouer. C'est plus grande contradiction aussi. Oui, c'est la plus grande des libertés. C'est pour ça que j'aime m'abandonner de temps en temps à cette écriture-là et à cet univers-là. Donc je vais chercher un petit peu à droite et à gauche ce qui a été fait. Ce n'est pas toujours simple de rentrer dans l'œuvre d'un, d'un poète parce que la poésie, qu'est-ce que c'est ? C'est une histoire qu'on se raconte, mais dont on gomme les étapes et on n'a plus que le fond de sauce, vous savez, comme un grand cuisinier. Et donc, les clés, l'auteur les a, mais parfois le lecteur ne les a pas. Et c'est compliqué. C'est toute la différence entre la poésie hermétique et celle qui ne l'est pas.
Quand par la sensation, on comprend tout, quoi.
Je pense qu'il faut rentrer dans l'œuvre de quelqu'un avec son intuition et prendre une œuvre poétique, c'est une œuvre musicale. D'une œuvre musicale, vous n'aimez pas tout, mais il y a des passages à un moment donné qui ouvrent des tiroirs en vous et qui provoquent des sensations, qui vous font d'ailleurs connaître. Et la poésie, c'est la même chose. Vous pouvez ne pas tout aimer de la poésie, mais vous avez des passages qui vous inspirent et qui vous correspondent.
Vous connaissez des poésies par cœur ?
Ah oui.
Ah oui. Vous nous en donnez quelques vers.
Vous avez combien de temps ?
On n'a pas toute la nuit, mais on vous écoute avec plaisir.
Il y a une poésie je vais essayer de m'en souvenir, hein, mais il y a une poésie de Desnos que j'adore parce qu'elle a été écrite pendant la guerre et pendant la résistance, qui s'appelle « Demain ». Dans 100 000 ans, j'aurais encore la force de t'attendre. Ô demain, pressenti par l'espoir. Le temps, vieillard, souffrant de multiples entorses, peut souffrir, peut gémir. Le matin est neuf, neuf est le soir. Mais depuis trop de temps, nous vivons à la veille. Nous veillons, nous gardons la lumière et le feu, et nous tendons l'oreille à main, bruit vite éteint et perdu comme au jeu. Or, du fond de la nuit, nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses espoirs et de tous ses présents. Et si nous ne dormons pas, c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin, nous vivons au présent.
Superbe. Garantie sans antisèche, vous l'avez fait là comme de mémoire. Mais pourquoi ?
Oui, mais vous m'avez... Je l'ai cherché quelques mots quand même.
Comment vous triez ceux que vous allez apprendre par cœur et ceux que vous aimez juste lire ? Ben
parce que je trouve ça magnifiquement écrit, parce que ça veut dire quelque chose, ça traduit quelque chose...
C'est-à-dire que parfois, vous posez et vous dites, celui-là, je vais l'apprendre par cœur.
Oui. Ouais. Vous avez Paul Gentoulet, Les Aliscamps. Et là, ça me correspond parce que c'est dans Arles. Et forcément, il fallait que je l'apprenne. Dans Arles, où sont les Aliscamps, quand l'ombre est rouge sous les roses, éclaire le temps, prends garde à la douceur des choses. Si tu sens battre ton cœur trop lourd et que se taisent les colombes, parle tout bas, si c'est d'amour, au bord des tombes. Voilà, c'est tout l'univers des Aliscamps.
Vous avez un recueil de poésie de Houellebecq aussi.
Oui,
mais plus pas complexe. De roman.
Plus complexe. Ça m'intéressait de savoir ce qu'il écrivait et pourquoi quelle était sa poésie. On connaissait le romancier, on connaît peu le poète. Voilà, c'était une curiosité pour moi.
Je revois les yeux bleus des touristes allemands qui parlaient société devant un formidable, leur arceau réfléchi, un peu nerveux pourtant, se croisaient dans l'air vif, ils étaient plusieurs tables.
Voilà.
C'est plus moderne, quoi. C'est
autre chose.
Ouais, ouais. Mais vous aimez toutes les formes de poésie, y compris la poésie en prose, ou alors il faut vraiment que vous aimez bien certains codes, vous n'aimez pas les haïkus, mais vous préférez les alexandrins. Vous êtes d'une école ?
Il y a de la poésie rimée avec rime qui est exceptionnelle, mais ce n'est pas la rime que je cherche, c'est l'intention, c'est la musique, c'est l'univers. Et donc vous avez de la prose poétique, vous avez là... Un merveilleux bouquin qui est une somme de travail sur...
De Pierre Chémolle.
Et il dit...
Très beau livre.
Il dit...
À noter, tiens.
Oui, à noter.
Vous gribouillez sur les livres ou pas, juste parenthèse ?
Oui, j'aime beaucoup. Je travaille toujours avec un stylo ou un crayon. Pas un stylo parce que je n'aime pas abîmer les livres, mais un crayon. Et je fais une petite croix, Et il dit « On ne saurait conclure sur la poésie de la Renaissance française sans évoquer le plus grand esprit de ce temps, François Rabelais. Sans doute n'est-il pas classé comme poète dans la nosologie scolaire du fait qu'il ne s'exprime pas en vers, mais nous savons que la véritable frontière n'est pas à établir entre vers et prose, mais entre poésie et prosaïsme. » Donc la poésie, c'est vraiment une musique, c'est vraiment un univers. Il ne faut pas rester, il ne faut pas s'enfermer dans la technicité de « je cherche la rime à tout prix ». En cherchant la rime, parfois, on dévie de son intention, on dévie de son idée, et c'est pas ma volonté en tout cas.
Je suis aussi pas surpris, mais je pense aussi à vous comme ancien patron de France Télévisions. Et à chaque fois, moi, je fais le constat que la poésie est quasiment absente de la télévision. Il y a de la littérature avec François Bunel et tout ça, et puis dans d'autres émissions. Mais la poésie...
Que j'ai installée, d'ailleurs, c'est à France Télévisions à ce moment-là.
Et bravo à vous. Mais la poésie, c'est quasiment anti-télévisuel. Ça fait peur. C'est pourquoi ? Pourquoi il n'y aurait pas un programme court, par exemple, entre deux programmes qui récite un poème ? C'est assez simple à faire, finalement.
Mais ce serait tout à l'honneur du service public, d'ailleurs.
Et pourquoi, quand vous étiez vous, vous aviez pensé à ça ? Vous étiez dit, tiens, la poésie, c'est quand même mon truc, il faudrait que je trouve quelque chose.
Mais d'abord, il ne faut surtout pas faire de la télévision pour soi, il faut toujours la faire pour les autres, toujours pour essayer de donner son univers. Mais je crois qu'on avait à la place de la poésie, on avait fait la minute sur les tableaux, et je trouvais ça formidable aussi.
Voilà, Dardard.
Dardard, voilà, qui est une série exceptionnelle. Voilà, on ne peut pas tout faire en même temps, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant à creuser.
Mais c'est vrai qu'en France, c'est très étonnant. On a un passé poétique, une culture poétique inégalable, mais aux États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus répandu, y compris dans les librairies. En France, dans les librairies, les rayons sont tout petits de poésie.
Bien sûr.
Comment on explique ça ?
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par la poésie, mais qui ont peur de la poésie, parce qu'ils ont peur de l'aspect un peu hermétique. Et la meilleure façon de rentrer et d'écouter, enfin de prendre contact avec la poésie, c'est d'aller écouter la poésie. La poésie s'écoute, la poésie se lit, s'entend, elle sonne, comme de la musique. Et très souvent, lire, c'est plus compliqué, plus difficile, ça demande un effort. Et moi, je vois, quand je fais des lectures de ma poésie, ça y est, les gens, ça y est, ça rentre. Et à la fin, ils vont vous acheter le livre pour retrouver ce qu'ils ont entendu, pour retrouver les sonorités, les émotions qu'ils ont pu éprouver pendant la lecture.
Pour vous, le livre de poésie, c'est une partition, quoi. Il faut la jouer.
Il faut la jouer, et puis c'est de la musique, c'est une partition, et la voix contribue énormément. C'est pour ça qu'on a les comédiens sont des êtres extraordinaires, parce qu'ils servent l'œuvre, ils servent le verbe, et c'est merveilleux. Moi, quand Pierre Arditi a lu mon refuge pour tant d'orages, il y a mis son intonation, il y a mis sa voix, il y a mis ses tripes. Et il a fait ça d'un premier jet. J'ai dit, mais t'as compris tout ça. Il m'a dit, mais tu sais, les émotions dont tu parles, je les ai éprouvées. Donc ça va, ça fonctionne. Ça fonctionne quand c'est bien lu.
Merci beaucoup, Patrick de Carolis.
De rien.
À bientôt.
Merci à vous.
Retour à Europe 1, je rappelle Bianca, l'âme damnée des Médicis. C'est le nouveau roman de Patrick et Caroline de Carolis. Nous sommes toujours avec Julien Bisson, rédacteur en chef du journal Le 1 et ancien patron de Lire. Vous devez crouler sous une montagne de livres, vous aussi. Comment sont-ils organisés ?
Ils sont organisés dans plusieurs bibliothèques déjà, parce qu'en effet, une seule ne suffit pas. Je suis plutôt de ceux qui du coup, ont tellement de livres qu'ils les classent par ordre alphabétique, auteur par auteur, par genre d'abord et par auteur, parce que sinon, je ne les retrouve jamais. Et donc, tant pis, ce n'est pas le plus esthétique, je sais, mais j'ai besoin de savoir où sont les livres pour pouvoir les retrouver.
Le problème, c'est quand il faut en rajouter un et que c'est trop serré. Et alors là, il faut tout décaler.
Exactement. On passe beaucoup de temps à être toujours, tout le temps en train de les décaler. C'est pour ça qu'il y a même plutôt une idée. Moi, je pense que dans la bibliothèque principale, c'est là où il y a vraiment mes livres préférés. Et aujourd'hui, quand j'en rajoute un, je suis obligé de m'en séparer d'un autre qui va aller dans une bibliothèque secondaire. Ça permet aussi de, à chaque fois, rééquilibrer ses jugements.
Vous avez toute la collecte des Roald Dahl, j'imagine.
Tout à fait, dans une bibliothèque jeunesse.
Ah, il y a une bibliothèque jeunesse. Et pas dans la bibliothèque adulte, alors ?
Non, parce qu'à un moment, ce serait dommage de trop les séparer.
Eh bien, il va falloir encore décaler les livres, parce qu'on part dans un instant, dans la librairie, l'écriture de Vaucresson. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1.
La Voix est livre.
La Voix est livre continue, direction Vaucresson, à la librairie L'Écriture. Rejoindre Thibaut Raden.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nicolas.
Oh là 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 là, il y a beaucoup de livres là. On avait dit que deux livres, Thibaut. Là, il y en a au moins quatre.
Mais non, il y en a un plus une trilogie, c'est pas pareil. Le premier, c'est Cobra Star de Thomas Bois chez Le Tripode. Là, c'est le kiff total. Cobra Star, c'est l'histoire donc de Cobra Star, qui est un espèce de Cobra, vous savez, le manga en hommage à Belmondo, mais en même temps aussi tout un tas de personnages de Tarantino et à peu près tout un tas de personnages de space opéra très très fun. C'est-à-dire que
vous m'intéressez là.
Han Solo ne serait pas mécontent de rencontrer Cobra Star. Le livre, il souffle sur très clairement une scène à la Pulp Fiction, dans un diner où on rencontre Cobra Star. Et au moment où il y a cette espèce de faux braquage dans Pulp Fiction, il y a un faux braquage aussi dans Cobra Star, mais là, ça ne se passe absolument pas pareil. Et il y a un homme qui arrive, qui est considéré par l'Empire Galactique comme une catastrophe naturelle, tellement il est meurtrier, qui en fait sauve les miches de Cobra Star, lui donne un truc et lui dit « tu dois le cacher ». Et à partir de là, en fait, on va suivre cette espèce de fausse fuite road trip de Cobra Star qui va rencontrer des gens. C'est totalement halluciné, c'est génial. Il y en a vraiment pour notre argent. C'est-à-dire que la couverture, elle est hyper colorée. On est dans un Blade Runner avec une espèce de... Ouais, on dirait les Goonies, là. On est dans un Blade Runner totalement...
C'est rose, c'est vert clair, voilà, c'est jaune, ça c'est pour la couverture.
Voilà. Oui, et puis il y a un petit E.T. en bas à droite. Enfin, en fait, c'est un hommage à la pop culture qu'on adore. C'est Star Wars sous hallucinogène, quoi. C'est superbe, on s'éclate totalement. Et pour tous les conseils que j'ai fait à mes clients, ils sont tous revenus en me disant « putain, mais c'est génial !» Et la seule chose qu'on a envie, à part de le relire, c'est de foncer au cinéma, voir le film, écouter la musique, ça explose dans tous les sens, c'est génial.
Et c'est un Français, Thomas Bois ?
Ouais, c'est un Français. Je crois que c'est son premier roman. En tout cas, on se marre bien. Derrière, ils disent entre les Gardiens de la Galaxie et Tonton Flingueur, ils ont absolument raison.
Cobra Star, bah, je vais vous le prendre aux éditions du Tripode. Et puis ensuite, donc, votre montagne de livres, là, de trois livres très épais, qui est donc une trilogie.
Ouais, c'est la trilogie de Hurl de Diana Wynne, ou je ne sais pas comment on dit, Jones, aux éditions Innis. En fait, la trilogie de Hurl, on connaît à peu près, enfin, ceux qui connaissent Miyazaki et qui ont vu Le Château Ambulant, en fait, on connaît un peu déjà la trilogie de Hurl. Parce que le premier livre, qui s'appelle Le Château de Hurl, c'est le film Le Château Ambulant. Alors Miyazaki l'a réadapté à sa sauce, mais les premières pages sont les premières minutes du film. Hurl, c'est un sorcier, un magicien, qui est extrêmement doué, tellement doué qu'il en joue. C'est quelqu'un qui est très vaniteux. Et les femmes sont un petit peu ses cibles des fois. Nous, on va suivre Sophie, qui malgré elle va le rencontrer et qui va être victime d'une malédiction d'une autre sorcière. Et en fait, par divers moyens, elle va rencontrer Hurl vraiment, ils vont devenir amis, ils vont vivre des aventures. Ça, c'est la première trilogie. La deuxième, en fait, c'est plus les mille et une nuits. On suit une espèce d'Aladin qui est tombé amoureux d'une princesse qui s'est fait capturer par un djinn. Mais c'est toujours dans le même univers. Alors, je ne dis pas trop de trucs parce qu'il y a énormément de surprises. Mais en gros, c'est le château dans les nuages et voilà, on aura la tête dans les nuages. Et le troisième, c'est la maison aux mille détours, où on suit une jeune fille. Son rêve, c'est de ranger la bibliothèque du roi. Et quand elle va pouvoir le faire, en fait, elle va pouvoir le faire parce qu'elle va devoir garder la maison du magicien du roi qui est malade. Et en fait, à partir du moment où elle garde cette maison, elle se rend compte que quand on ouvre une porte d'un certain côté, eh ben, on n'ouvre pas la même pièce. Et donc, c'est un monde magique qui s'ouvre à elle. Et les livres aussi s'ouvrent à elle parce qu'elle va dans cette bibliothèque. En fait, la trilogie, c'est un monde magique qui est génial. On s'amuse. C'est magnifique. Ça fait rêver. C'est quelque chose. C'est pour les jeunes, hein, à la base. C'est pour les jeunes. Mais moi, en tant qu'adulte, je les mange, ces livres. Je retourne voir mes amis. Sophie, Hurl. Enfin, tous, ils sont géniaux.
Mais on retrouve les personnages dans toute la trilogie ou c'est à chaque fois vraiment différent ?
J'ai pas envie de le dire.
Mais d'accord.
Non, si, bien sûr qu'on les retrouve. Mais en fait, c'est là où elle était très intelligente parce que l'autrice est morte. Mais on les retrouve de manière assez subtilement. Enfin, voilà. Mais même si dans le 3, Sophie et Hurl sont présents, vraiment.
La trilogie de Hurl de Diana Wynne Jones, ça doit bien faire en tout 1500 pages. Merci ouais, beaucoup ça. Thibaut. Et puis Thomas Bois, Cobra Star au Tripode qui a l'air super. Merci beaucoup Thibaut.
Merci Nicolas.
Retour en studio avec Julien Bisson pour sa magnifique édition des nouvelles de Roald Dahl. Nous sommes rejoints par Sébastien Bordenave et ses bandes dessinées. Bonjour Sébastien.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Deux albums aujourd'hui.
Oui, et avant de parler BD, bah parlons série.
Ah bah tiens,
voilà. Si vous avez aimé Squid Game, eh bien vous aimerez Hellbound, ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas parce qu'on a aimé une série coréenne qu'on va apprécier une autre série coréenne. Il n'empêche, une série vient de débarquer sur Netflix, Hellbound, l'occasion de parler ici de sa version manga.
Ah, il est malin.
Ou plutôt manhwa. Le manga, c'est japonais. Le manhwa, c'est coréen, je ne savais pas. À la base, Hellbound était une webtoon, encore un nouveau mot. Une webtoon, c'est une BD qu'on ne peut lire que sur Internet. Avec le succès, Hellbound a été adapté en série avec de vrais acteurs. Si vous regardez la série sur Netflix, vous serez bluffé par les effets spéciaux. Et si vous optez pour la BD, eh bien vous serez scotché par la richesse graphique. Oubliez définitivement vos a priori sur les mangas avec des personnages qui ressemblent tous à Olivier Tom. Là, on est dans de la haute voltige. L'histoire mérite d'être découverte sur pièce, mais d'un mot, des esprits pas très sympas préviennent des gens au hasard dans la population. Ils vont bientôt partir pour l'enfer. Quand ? Eh ben, soit dans 5 minutes, soit dans 20 ans, soit
pas
demain. Il n'y a pas de règle. Le jour J, de gros Hulk noirs viennent vous chercher. Ils vous refont le portrait, vous brûlent vif. Pourquoi ils font ça ? Est-ce que les condamnés sont tous des pêcheurs ? Suspense, rebondissement, bref, tout pour passer un moment aussi addictif que terrifiant.
Ah ouais, ça donne envie. On change complètement d'ambiance. Je vois que vous avez aussi le maître Jacques Tardy.
Exactement. Ça s'appelle Élise et les nouveaux partisans. Changement d'ambiance radical, mai 68, maoïsme, grève sauvage, barricade.
Il y a des liens.
Oui, oui. La BD raconte l'histoire d'Élise, une chanteuse prometteuse. Sa maison de disques aimerait bien en faire la nouvelle Françoise Hardy, mais pas de bol, elle a une conscience politique un tout petit peu plus développée. Du coup, elle plaque tout et devient, comme elle le dit elle-même, engagée à perpétuité. La BD, avec tout le talent de l'immense Tardy, retrace la vie de cette femme qui va préférer chanter dans les usines, vivre dans la clandestinité et faire de la prison à cause de ses luttes. Le scénario est signé Dominique Grange, la femme de Jacques Tardy. Mmh. Et vous l'avez peut-être compris, mais c'est une autofiction. Élise, c'est Dominique Grange. Oh. Cela permet quelques libertés de narration tout en conservant l'obsession du dessinateur Jacques Tardy pour un réalisme hallucinant. Par exemple, ils ont cherché à connaître la taille exacte des bidules. Vous savez ce que c'est que les bidules ?
Non.
Eh ben, c'était les longues matraques des CRS de l'époque, puis des voltigeurs. Eh ben, elles faisaient 1 mètre de long. Forcément, ça ne se dessine pas pareil. Voilà. La BD Élise et les nouveaux partisans est un bel hommage à Dominique Grange, que je ne connaissais pas. Elle dit « Je ne suis pas une chanteuse qui milite, mais une militante qui chante. La preuve, écoutez et respirez, ça sent la lacrymo. »
Nous sommes les nouveaux partisans, francs-tireurs de la guerre de classe. Le grand du peuple est notre camp. Nous sommes les nouveaux partisans.
Merci Sébastien. Vous nous rappelez les deux BD ?
Chez K-Books, Hellbound tome 1, le 2 sortira mi-janvier. C'est de Yeon Sang-ho au scénario et au dessin de Choi Gyu-seok. Chez Delcourt, donc, Élise et les nouveaux partisans de Jacques Tardy et Dominique Grange. On se quitte avec une citation tibétaine, mais signée Marcel Gottlieb, le papa des dingos dossiers, des rubriques à braque. « Les bons gongs font les bons amis ». Voilà, humour.
Magnifique citation. Julien Bisson, au nom de Roald Dahl est associé un dessinateur que vous avez rencontré d'ailleurs. On peut en voir dans le livre de certaines de ses illustrations, notamment le bon gros géant très connu avec ses oreilles démesurées. Et l'un ne va pas sans l'autre, finalement.
Oui, c'est Quentin Blake. C'est Quentin Blake. Et d'ailleurs, quand j'avais un jour parlé avec Johannes Farr de Roald Dahl, il me pensait que c'était les deux étaient la même personne parce qu'il ne voyait pas comment les textes de Roald Dahl étaient dissociables des dessins de Quentin Blake. Et c'est vrai que Quentin Blake est encore vivant aujourd'hui. C'est véritablement un sommet, un monument national en Grande-Bretagne. Je crois qu'il a été élu parmi les 20 plus grands artistes britanniques de tous les temps. Wow. Et c'est vrai que alors ça manque dans les contes de l'inattendu parce qu'il n'a jamais illustré ces textes-là, mais quand même il a illustré les récits pour la jeunesse, Moi Boy et Escadrille 80, et c'est vrai que ces illustrations-là sont vraiment importantes et on était content de pouvoir en mettre quelques-unes dans ce volume.
Contes de l'inattendu, nouvel roman récit, c'est chez Quarto, 1600 pages indispensables, un énorme paquet de bonbons, merci pour ça et merci d'être venu Julien Bisson.
Merci pour votre invitation.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission, merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpech pour la programmation musicale. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.